protestants au pluriel, des convictions qui dialoguent, un engagement qui résonne.
Bonjour à tous, protestants au pluriel, Yolande au micro pour vous faire découvrir la richesse du protestantisme français. En effet, nous allons à la rencontre des églises et membres de la Fédération protestante de France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le mouvement protestant, la Mission populaire évangélique de France, représentée par Valérie Rodriguez, qui est secrétaire générale.
C'est ça.
Alors, bonjour Valérie Rodriguez. On va commencer par quelque chose de très simple. Est-ce que vous avez un slogan pour définir ce mouvement protestant de la Mission populaire?
Alors, notre slogan, c'est « Vivre et manifester l'Évangile en milieu populaire ». On en a plusieurs, il y en a d'autres qui sont un peu plus longs, mais c'est un peu celui-là qui est notre slogan, notre identité.
Donc, l'Évangile et le milieu populaire.
C'est ça.
C'est la coordination des deux. Et est-ce que vous avez un verset biblique ou des versets bibliques ou des thèmes bibliques?
Alors, j'ai choisi un verset biblique. Dans Proverbes 31, verset 8, « Mais toi, tu dois parler pour défendre ceux qui n'ont pas la parole et pour prendre le parti des laissés pour compte. »
C'est bien adapté.
Voilà, donc c'est un verset qui me parle et qui, je trouve, effectivement, est assez en lien avec ce qu'on fait à la Mission populaire.
Et vous, donc, quel est votre rôle de secrétaire général?
Alors, c'est un rôle de coordination de l'ensemble du mouvement, puisqu'on a 13 associations indépendantes les uns des autres, mais qui sont dans un même mouvement. Donc, un siège à Paris, et puis 12 associations locales, un peu partout en France, à Marseille, à Trappes, à Saint-Nazaire, à La Rochelle, à Montbéliard. Voilà, il y en a 12 lieux qui s'appellent tous des fraternités. Certains sont des centres sociaux, d'autres des espaces de vie sociale, d'autres juste des associations locales. Mais toutes fonctionnent avec le même projet lié à la Mission populaire évangélique de France.
On va voir quelques chiffres. Est-ce que vous pouvez nous donner, donc vous avez déjà parlé du nombre de fraternités, d'associations. Est-ce que vous avez d'autres chiffres? Alors d'abord la date, vous êtes une vieille dame, la Mission populaire, pas vous, mais la Mission populaire, 150 ans, c'est ça?
C'est ça, on est une très vieille dame qui est née donc au lendemain de la Commune de Paris avec un pasteur écossais, ce qui est quand même assez atypique, qui s'est ému du sort des ouvriers à Belleville, juste au lendemain de la Commune de Paris, et qui a rencontré donc ces ouvriers. Alors la légende, je ne sais pas si c'est véridique, mais en tout cas la légende dit que un ouvrier l'a interpellé en lui disant « si on nous présentait une religion de liberté, on pourrait se l'approprier ». Je cite de mémoire. Hein. Mm-hmm. Et c'est à partir de là aussi que son œuvre a commencé. Au départ avec des salles d'évangélisation dans lesquelles on faisait à la fois de l'évangélisation, mais aussi prévention de l'alcoolisme, accompagnement des personnes dans leurs difficultés sociales et dans leur précarité. Voilà comment ça a commencé. Donc c'est effectivement une très vieille dame.
C'est en rapport avec le christianisme social, votre...
Tout à fait, c'est exactement ça. C'est une association qui œuvre dans ce mouvement-là, en tout cas, depuis ses débuts. Alors évidemment, les choses ont évolué au fil des années. On n'est plus du tout dans cette posture d'évangélisation pure et dure, mais plutôt dans un accompagnement des personnes. Aujourd'hui, la Mission populaire, elle repose sur 3 piliers. Donc, un pilier social, des activités sociales qui sont assez classiques, hein, en fonction des conçues en fonction des territoires. Donc, par exemple, à Saint-Nazaire, on a des petits déjeuners pour des personnes à la rue, avec de plus en plus de personnes qui viennent prendre ce petit déjeuner, une douche, recharger le téléphone portable. Par contre, à Trappes, c'est pas du tout le cas. C'est plutôt des cours de français pour des adultes avec une quarantaine de nationalités différentes, entre 160 et 180 élèves qui viennent apprendre le français. Donc ça, c'est la partie sociale. Donc chaque fraternité a des activités sociales spécifiques. Ensuite, il y a une partie politique. Donc, c'est plutôt autour de plaidoyer et d'interpellation des pouvoirs publics. Pour donner un exemple, au moment du vote de la loi Asile et Immigration, on a été assez présent, en tout cas, on a interpellé les pouvoirs publics, on a participé à des manifestations. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour nous aussi d'interpeller les pouvoirs publics. Et notre troisième pilier, c'est un pilier spirituel. C'est plus un pilier comme à l'époque de McCall uniquement biblique. C'est plutôt un accompagnement des personnes dans leur parcours de vie. Parce qu'on pense qu'elles ont des besoins matériels, évidemment, mais elles ont aussi, comme nous, des besoins spirituels, besoin de réfléchir au sens de leur vie. Et donc, on les accompagne aussi dans cette dimension-là. Voilà.
Mais vous avez une identité protestante dans votre association, même si vous aidez les gens dans leur parcours spirituel personnel, le mouvement est protestant. Comment vous vivez cette identité protestante à l'intérieur de votre association, dans tous les échelons, c'est-à-dire d'abord les responsables, les militants, etc.
Alors les responsables et les militants sont pas nécessairement protestants, certains le sont, d'autres pas. Dans les conseils d'administration locaux, par exemple, il y a des gens de l'Église protestante unie, beaucoup, mais il y a aussi des catholiques, il y a aussi des gens qui sont des militants politiques, par exemple des gens de Europe Écologie. C'est pas évidemment une condition pour être administrateur ou salarié ou bénévole à la mission populaire. Mais je pense que le protestantisme a ça de particulier que on est aussi dans une dimension très ouverte et qui accueille finalement toutes les personnes qui ont envie de s'engager. Voilà, donc ce protestantisme, il se vit parce que l'association a cette identité aussi et qu'on la revendique et que nous agissons au nom de notre foi chrétienne. Et ça, c'est dans les statuts de toutes les associations locales, des 12 fraternités, il y a un préambule qui dit ça un petit peu, qui dit notre identité protestante et qui dit que c'est au nom de l'Évangile qu'on agit.
Alors, on va voir en deuxième partie, donc une partie plus concrète où on va faire la radioscopie de ce mouvement. Alors, dans les actions principales, j'aimerais revenir justement sur l'animation spirituelle. Est-ce que vous avez des exemples d'animation spirituelle? Qu'est-ce que vous faites dans ces groupes au niveau de l'animation spirituelle?
Alors déjà, on a une formation qui est proposée aux bénévoles et aux salariés, formation à l'animation spirituelle qui dure 2 jours. Et ensuite, les bénévoles et les salariés qui ont suivi cette formation peuvent proposer dans les différentes fraternités des ateliers. Pour donner un exemple concret, à Trappes, on avait fait par exemple un atelier avec les femmes, qui étaient des femmes essentiellement de confession musulmane, autour de qu'est-ce que c'est qu'être une femme. Et on avait commencé par un brainstorming. Alors c'était assez étonnant parce que tous les mots qui sont sortis à ce moment-là étaient des mots liés à la maternité. Mmh. Et donc on a pu rebondir en disant, ben, être une femme, est-ce que c'est uniquement être une mère? Ben non. Et finalement, au fil de la discussion, parce que c'est des choses toujours très ouvertes, on arrive à aborder des choses assez profondes finalement sur le sens de la vie, sur la question du pardon, sur la question de l'identité. Voilà, donc c'est... Alors on peut partager notre foi chrétienne à ce moment-là, enfin en tout cas dire qui on est, ce que l'on est, sans prosélytisme et sans chercher à convaincre l'autre, mais en tout cas, on peut être amené à partager cette dimension-là.
Et est-ce que vous apportez donc beaucoup aux bénéficiaires, à ceux qui viennent, on s'en doute, et à la société? Est-ce que vous avez un apport? Est-ce que vous avez un message? Est-ce que vous avez quelque chose à montrer à la société?
Alors, je pense que le message qu'on apporte et qu'on montre à la société, c'est ce message qui est porté par le christianisme social, message de toutes les personnes qui sont accueillies dans nos fraternités, elles ont autant de valeur que nous, que la personne qu'on rencontre dans la rue, que le sans-papier qu'on accueille pour un cours de français, que la personne à la rue qu'on accueille pour un solidège. Finalement, c'est montrer à la société qu'on n'a pas des tiroirs dans lesquels on classe les gens, mais on peut vivre et partager des choses avec toutes les personnes qu'on rencontre dans nos vies, finalement. Donc, je trouve que ce message, c'est autour de l'inclusion, finalement.
Vous pratiquez l'accueil inconditionnel. Tout le monde peut venir et être bénéficiaire de votre mouvement.
Tout à fait. Ce qui n'est pas sans difficulté parfois, parce qu'on accueille aussi beaucoup de personnes qui sont sans papier. Mais c'est un peu notre ADN aussi, et c'est le choix qu'on a fait. Avec parfois des difficultés avec les pouvoirs publics, parce que on est un peu coincé parfois par nos convictions, mais pour nous c'est important de les assumer et de dire que au nom de l'Évangile on accueille ces personnes-là comme on accueille tous les autres.
Et vous ne craignez pas d'être hors la loi en aidant des sans-papiers? Est-ce que vous ne craignez pas un retour du bâton? Pour vous, personnellement?
Alors, je pense que parfois, quand la loi est un peu inique, c'est pas très grave d'être hors la loi. Je pense que sous Vichy, il y a un certain nombre de Français qui étaient aussi hors la loi, qui ont assumé de l'être. Alors, c'est pas comparable, hein, mais effectivement, parfois, on est un peu sur une ligne de crête, je dirais. On assume de l'être, et je pense que Jésus était peut-être aussi sur cette ligne de crête assez souvent dans sa manière d'être en relation et d'accueillir les gens.
On a compris vos convictions fondamentales qui sont celles du christianisme social. Est-ce qu'on peut débattre de tout au sein de vos groupes, ou est-ce qu'il y a des limites au débat? Est-ce qu'il y a des choses?
Non, je pense qu'on peut débattre de tout. On peut parler de religion. On a beaucoup d'échanges avec des personnes de confession musulmane, puisqu'il y en a beaucoup dans les fraternités. Donc, on peut parler de religion. On peut parler de politique. On ne s'interdit aucun sujet. Juste après les attentats de Charlie Hebdo, là, c'était en 2015, 2016. On a eu des discussions vraiment intéressantes avec des personnes de confession musulmane qui rejetaient cet islam violent et radical, et on a pu vraiment échanger en profondeur avec des personnes de confession musulmane. Là, en ce moment, il y a beaucoup de débats aussi dans les fraternités autour du conflit à Gaza. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de sujet tabou, non. Et c'est important parce que les gens nous le disent aussi, contrairement à un centre social municipal où, effectivement, les questions de religion, on ne doit pas trop les aborder.
Oui.
Là, ça pose aucun problème. Au contraire, c'est vraiment un lieu où une parole qui fait sens peut être partagée.
Mais en général, en dehors du contexte un peu immédiat, les relations avec les pouvoirs publics, elles sont plutôt sereines, elles sont compliquées, comment ça se passe?
Alors, globalement, elles sont assez sereines, parce que je pense que les pouvoirs publics voient aussi tout le travail qui est fait dans les fraternités pour accueillir des personnes précaires, des personnes en difficulté. Donc, globalement, ça se passe bien. Après, je pense qu'il faut aussi qu'on ait un espace de discussion possible avec les pouvoirs publics, notamment autour de la question de la laïcité, qui, de mon point de vue, et globalement du point de vue de la mission populaire, est peut-être mal expliquée, mal comprise, mal maîtrisée, y compris par les pouvoirs publics, qui parfois assimilent cette laïcité à de la neutralité, ce qui n'est pas du tout l'esprit de la loi. Et du coup, voilà, si on a un espace de discussion possible, on a des relations assez sereines, parce qu'on peut dire un peu comment on voit les choses et comment elle devrait être, finalement, parce que l'esprit de la loi, il est là, hein, sur la laïcité. Si on n'a pas cet espace de discussion, c'est parfois un peu plus compliqué.
La place des femmes dans votre mouvement, je suppose qu'il n'y a pas de problème, puisque vous êtes une femme, vous êtes à un poste de responsabilité. Est-ce que c'est récent? Est-ce que ça a toujours été comme ça?
Alors, le poste que j'occupe, moi, je l'occupe depuis 2 ans, pas tout à fait 2 ans maintenant. Les deux personnes qui m'ont précédée étaient des femmes aussi. Je pense qu'à la mission populaire, il n'y a pas vraiment de sujet là-dessus. C'est quelque chose qui est plus qu'acquis. La légitimité des femmes n'est pas remise en question, ni en termes de compétences, ni en termes de place. Et je pense que c'est aussi une caractéristique du protestantisme pour moi, hein. Contrairement parfois à l'Église catholique où c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc là-dessus, je trouve qu'il y a une vraie place et...
Il n'y a pas de problème.
Non.
Et est-ce que vous avez eu des problèmes sur les violences sexuelles ou spirituelles dans vos mouvements? Et est-ce que vous engagez une réflexion en amont pour la prévention?
Alors, on a été très sensible à tout ce qui a été fait par la Fédération protestante de France et puis par l'Église protestante unie sur ces sujets-là. Nous, on est concernés, je dirais, par... les personnes qui fréquentent les fraternités, notamment des femmes victimes de violences conjugales et qui viennent se confier. Et donc, si on peut les accompagner, on les accompagne. Si on peut pas, on les oriente vers des structures qui peuvent les accompagner. Mais en tout cas, on est vraiment à l'écoute de cette parole-là et on essaye d'accompagner derrière la personne. À Trappes, je pense qu'on a eu énormément de femmes qui sont venues se confier parce que l'équipe salariée, c'était des femmes. Et que donc, je pense que c'est plus facile de se confier à une femme, sur ces sujets-là, en tout cas, qu'à un homme. Et donc, on a eu beaucoup de femmes qui sont venues se confier et qu'on a accompagnées en les orientant vers d'autres structures, en les accompagnant parfois au commissariat pour déposer plainte ou pour une main courante. Voilà, parce que parfois, elles ne parlent pas très bien français, donc au commissariat, ce n'est pas toujours évident. En tout cas, on est très sensible à ces questions-là et on accompagne quand la personne est demandeuse, en tout cas.
Est-ce que vous avez une belle histoire à nous raconter, justement, sur la remise en dignité de quelqu'un?
Ah ben, j'en aurais des centaines, des histoires.
Une.
Je pense à une femme qui s'appelle Nassera, qu'on a accompagnée à Trappes, justement, qui était venue pour un souci de violence conjugale et qui a été accompagnée par l'association et puis par d'autres structures aussi, qui maintenant a quitté son conjoint violent, s'est installée dans son appartement, dans lequel elle vit avec ses enfants, et elle a trouvé du travail, elle s'est reconstruite. Il y en a d'autres aussi, hein, je pense aussi à une autre femme malienne qui est arrivée très détruite en France avec son fils. Elle a été hébergée pendant de longues années dans un hôtel social, dans des conditions assez indignes. Et puis finalement, elle a pu accéder à un logement, s'installer avec son fils. Et maintenant, elle essaye de faire venir sa fille qui est toujours au Mali. Voilà, des histoires, on en aurait des centaines, hein. On a aussi un bénévole au foyer de Grenelle, qui est l'un des lieux de la mission populaire à Paris, qui était à la rue, qui est arrivé pour participer au petit déjeuner solidaire. Et qui s'est reconstruit, qui petit à petit a retrouvé du travail, a retrouvé un réseau. Il est devenu vice-président de la Mission populaire évangélique de France. Je le salue ici s'il nous écoute, Marc, voilà.
Alors, merci pour ces belles histoires. Alors, on va voir dans une troisième partie vos projets et vos défis. Je suppose que vous avez des projets. Quels sont ceux qui sont les plus marquants, les plus importants pour vous à l'heure actuelle?
Alors, en termes de projet, on aimerait travailler davantage avec la jeunesse, parce que dans certaines fraternités, on accompagne des jeunes, mais pas dans toutes les fraternités. On sent qu'il y a des enjeux importants avec ce public-là, d'accompagnement, de mise en capacité d'agir. Donc c'est un des enjeux pour l'association. Les enjeux climatiques aussi, évidemment, parce que je pense qu'on est aussi dans une période qui est extrêmement importante de ce point de vue-là. Et puis, accompagner les personnes sur ces enjeux-là, mais sans, je sais pas comment dire ça, sans se substituer à ce qu'elles font déjà, parce qu'on a parfois tendance à se dire « Ah ben oui, tiens, on va faire la leçon aux gens des quartiers sur les enjeux climatiques », alors qu'ils font déjà eux-mêmes beaucoup de choses. C'est aussi une thématique sur laquelle on a vraiment envie de travailler.
Et dans vos défis, est-ce qu'il y a des préjugés qui vous collent à la peau, qui entravent l'action de la mission populaire ?
Alors, je ne sais pas s'il y a des préjugés. Voilà, je me rends pas trop compte de
donc
l'intérieur.
Non.
Probablement que oui, hein, parce que il y en a toujours. Pendant une période, on a été les gauchos du protestantisme. Je pense que cette image-là est peut-être un peu moins présente aujourd'hui, mais on assume en fait cette dimension politique aussi. Donc. Et puis en termes d'enjeux, je pense qu'il y a de gros enjeux, mais pas seulement pour nous, pour toutes les associations de solidarité dans les années à venir, parce que on se rend compte que les pouvoirs publics, les politiques sont de plus en plus, j'ai presque envie de dire, répressives vis-à-vis des associations de solidarité. Et donc de moins en moins de finances, ou en tout cas de plus en plus de contrôle pas toujours très fin, j'ai envie de dire, sur ces finances-là. Donc oui, c'est des enjeux importants et je pense qu'on n'est pas les seuls. Hein. Il y a beaucoup d'associations qui vont être impactées par la baisse des financements publics. C'est déjà le cas sur un certain nombre de postes aidés par l'État qui n'existent plus aujourd'hui. Donc le Picoulé, par exemple, une de nos structures a dû licencier un adulte relais. Attrape, c'est le cas aussi. Voilà, donc on se rend compte qu'on va être sur des budgets contraints et qu'il faudra sans doute réinventer une manière de travailler.
Et justement, vous parlez des autres associations donc humanitaires, d'aide à ce public fragile. Quels sont vos rapports avec les autres associations, celles qui ne sont pas protestantes, par exemple? Comment vous travaillez? Vous avez des relations? Vous avez des...
Alors, on travaille jamais tout seul. On est vraiment en partenariat avec des dizaines et des dizaines de structures. Alors, parfois municipales, quand c'est une municipalité avec laquelle on peut travailler facilement. C'était le cas à Trappes. On travaillait très facilement avec la municipalité. On travaille beaucoup avec d'autres associations, la CIMAD, le MRAP, et puis des associations locales qui sont engagées sur les mêmes thématiques que nous aussi, qui sont parfois des toutes petites associations, mais qui ont une action de terrain qui est intéressante aussi. Donc non, on travaille jamais tout seul, parce que je pense que tout seul, on va peut-être plus vite, mais on va moins loin, puis on est moins efficace.
Alors, en conclusion, on va parler de la Fédération protestante. Vous faites partie de la Fédération protestante de France. Alors, qu'est-ce que vous en attendez, d'abord de la structure, et puis des autres protestants?
Alors, j'ai regardé dans mes notes, on a rejoint la fédération en 1969, donc ça fait quand même pas mal de temps. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce réseau de structures, d'églises, d'associations qui sont vraiment très différentes les unes des autres et qui finalement, enfin, cette diversité, moi, je trouve qu'elle est extrêmement riche. Elle est porteuse aussi. Je trouve qu'on est aussi... preneur de tout ce que la fédération peut mettre à disposition comme outil. Là, je pense à ce qui a été fait récemment sur les violences justement sexistes et sexuelles. Il y a eu pas mal d'outils qui ont été mis à disposition. Donc ça, c'est vraiment précieux, je trouve, cette mise à disposition d'outils. Et puis ce réseau, cette diversité, pour moi, c'est aussi ça le protestantisme. C'est arriver à vivre ensemble cette diversité.
Vous avez un lien avec les paroisses de base?
Oui, alors on a un lien avec certaines fraternités, un lien très étroit. On anime des cultes dans certaines paroisses, cultes Miss Pop. On est parfois financé par des entraides ou des paroisses même. Non, on a des relations plutôt assez proches. Alors pas dans toutes les fraternités, mais dans la majorité des fraternités, on a un lien de proximité avec les paroisses, oui.
Et qu'est-ce que vous apportez à la Fédération protestante de France ?
Qu'est-ce qu'on apporte? Alors, peut-être notre... je sais pas comment dire ça, notre... On est un peu un poil à gratter, peut-être. une manière d'être au christianisme et au protestantisme, peut-être un peu différente. Moi, je dis souvent une église de seuil, puisqu'on est à la fois dans le Collège des Églises et dans le Collège des Œuvres et Mouvements. Donc, une église de seuil où, effectivement, on est peut-être pas complètement dedans, mais pas complètement dehors. Et que c'est aussi peut-être une manière d'interpeller cette diversité qui existe au sein de la fédération.
Est-ce que vous pouvez pour terminer, nous donner un petit exemple d'animation spirituelle que vous faites dans les fraternités?
Alors, ça peut être un partage autour d'un texte biblique, mais un partage extrêmement ouvert. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément, je pense à ce qui se passe à Rouen, à la Fraternité de Rouen, où on peut aborder un texte biblique, mais avec des gens qui, par exemple, connaissent pas du tout la Bible. Et du coup, ça génère aussi des réflexions qui sont toujours très intéressantes, de gens qui ne connaissent pas les textes et qui arrivent un peu vierges de ça, et qui ont des réflexions très intéressantes. Je pense aussi à l'ancienne directrice de la fraternité de Saint-Nazaire, qui découvrait le texte de Marthe et Marie au pied de Jésus, et qui nous a dit, alors qu'elle connaissait pas le texte, ça me fait penser à ce qui se passe à la fraternité de Saint-Nazaire, parce que je trouve que dans l'accueil des personnes au solidège, il y a des Marthe.
Au solidaire, donc au petit déjeuner solidaire.
Des Marthe qui s'agitent pour préparer le petit déjeuner, pour servir, pour nettoyer, pour organiser. Et puis des Marie qui s'assoient avec les personnes à la rue et qui partagent un moment avec elles.
Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, c'est Marthe et Marie, donc les deux sœurs au pied de Jésus. Il y en a une qui fait le ménage et qui rouspète parce que sa sœur ne fait rien et écoute Jésus. Et donc Jésus les renvoie un peu, je sais pas comment on pourrait, dites-nous comment vous voyez la fin du texte.
Alors moi je trouve que dans ce texte-là, Jésus justement il prend en compte les deux, parce que il essaye de prendre en compte Marthe aussi, en disant finalement peut-être que toi-même Marthe tu réponds pas à ton propre besoin. Parce que si tu rouspètes, c'est que ton besoin, il n'est pas... tu n'as pas répondu à ton propre besoin et peut-être que tu aurais besoin de te poser aussi au pied de Jésus, toi.
Alors, c'est un bon exemple de ce que vous faites à la Mission Populaire, ce côté écoute et puis ce côté... Vous êtes Marthe et Marie, donc comme l'a dit
je
votre...
Que, effectivement, c'est un peu ça. On essaye d'être Marthe et Marie. Ce n'est pas toujours évident. Parfois, on rouspète aussi. Parfois,
Mais c'est les mêmes personnes qui sont parfois Marthe et parfois Marie.
Oui, tout à fait.
Il
n'y
a pas des Marthe et des Marie séparées.
Il peut y avoir les deux. Il peut y avoir aussi des personnes qui incarnent les deux sœurs.
Eh bien, merci beaucoup Valérie Rodriguez. Donc, je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de la Mission Populaire Évangélique de France. On peut trouver plus d'informations sur votre site internet qui s'appelle...
Alors, notre site, donc missionpopulaire.org. On a aussi une page Facebook, Instagram, qui sont accessibles depuis le site internet. Et puis, toute une page aussi sur l'histoire. Il y a un onglet « Qui sommes-nous ?» où on peut aller regarder aussi l'histoire de la Mission Populaire.
Merci également à Benjamin Bories et à son équipe de production. Merci à nos auditeurs de leur fidélité et à bientôt pour découvrir une nouvelle facette de Protestants au pluriel. Au revoir.
Protestants au pluriel. Des convictions qui dialoguent, un engagement qui résonne.